Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentant les nouveautés introduites dans Visual Studio et TFS 2015. Je me présente, je suis Sébastien Cantigny et je suis ingénieur avant-vente pour ces deux solutions chez Microsoft. Nous allons commencer donc par les nouveautés Visual Studio 2015. Trois gros sujets: développement mobile, développement dans le cloud et pour le cloud, et enfin améliorer la productivité des développeurs en fournissant des fonctionnalités supplémentaires dans Visual Studio. Pour le développement mobile et cross-platform, quatre grosses nouveautés: Xamarin, outillage pour Apache Cordova, librairie cross-platform C++, et enfin l'émulateur Android fourni par Microsoft. Donc, Visual Studio et le développement mobile. Donc, si on part sur la partie native, donc tout ce qui est application pour le bureau, si on reste en .NET, on va pouvoir faire du WPF. Si on fait du C++, on va être en Win32. Et aussi sur toute la partie mobile développement et donc cross-platform, on va pouvoir utiliser Xamarin, donc qui permet de développer, de garder la logique de l'application en C#, de pouvoir aussi définir avec Xamarin Form toute la partie interface utilisateur en C#, et ensuite de pouvoir générer directement le code natif depuis Visual Studio, donc code natif pour Android et pour iOS. Maintenant, si on est plus développeur web, on va donc pouvoir réutiliser ce qu'on a déjà fait pour des applications type pour le browser ou basé sur les browsers, donc en HTML. Et là, Visual Studio va fournir un ensemble d'outils pour Apache Cordova. Tout d'abord, la partie Xamarin et .NET. Donc, c'est vraiment partager le code, la logique applicative en C# à travers l'ensemble des plateformes donc mobiles. Donc, iOS, Android et bien sûr Windows Phone. Donc là, vraiment, c'est le but, c'est de rester dans Visual Studio, et Xamarin va se charger de générer le code natif pour les autres plateformes, donc iOS et Android. Toutes les API sont exposées, donc on retrouve les mêmes fonctionnalités que l'on peut avoir pour accéder aux différents éléments d'une tablette ou d'un mobile, tels que la position, le stockage, etc., etc., comme dans Xcode ou dans les Android, pardon, Developer Tools. Sur la partie Cordova, donc là, plus des applications hybrides basées en HTML, donc sur HTML, là encore, Apache Cordova va fournir les API nécessaires pour accéder aux différents éléments du téléphone, donc du téléphone ou de la tablette, hein, comme je disais auparavant, comme la localisation, le stockage, etc. On peut utiliser aussi la partie TypeScript ou JavaScript. On a aussi introduit la notion de librairie partagée en C et C++. Donc pour l'instant uniquement sur Windows et Android, iOS arrivera plus tard. Donc ce qui va permettre de pouvoir utiliser donc le C et le C++ dans le cadre d'applications mobiles cross-plateformes. Dernière chose pour le développement mobile, c'est l'émulateur Android, donc qui est fourni avec Visual Studio ou qui peut être téléchargé de manière indépendante, directement depuis le web, et il est basé sur la techno Hyper-V, donc la technologie de virtualisation de Microsoft. On a bien sûr une intégration dans Visual Studio, aussi bien pour Apache Cordova que pour les projets Xamarin. On va pouvoir attacher tout ce qui est être en mode debug directement dans Visual Studio sans problème. On va pouvoir aussi simuler, émuler les différents éléments du téléphone, donc la partie localisation, accéléromètre, hein, directement. Je vais vous montrer maintenant l'émulateur Android en démonstration. Me voici dans Visual Studio. Donc là, j'ai créé un petit projet basique de type Android. Je suis déjà en mode debug, donc mon émulateur est déjà lancé. Voilà l'application, un premier bouton, voilà, simplement montrer ce qu'on peut faire. Et ensuite ici, on voit les données remontées par l'accéléromètre. Donc là, c'est pour vous présenter qu'on peut récupérer, simuler les données des capteurs liées au téléphone. Donc là, voilà, on a, vous voyez, les outils supplémentaires. Donc là, je suis bien sur l'accéléromètre. Je parlais de la localisation, de la partie réseau, partie batterie, faire des copies d'écran, la caméra, enfin l'appareil photo, et enfin tout la partie carte SD. Donc là, je vais tout simplement faire comme si je bougeais mon téléphone, voilà, et vous allez voir que automatiquement, on voit effectivement les données de cet accéléromètre se reporter dans mon application, dans l'émulateur. Juste aussi pour vous montrer, donc comme je disais, l'émulateur est téléchargeable indépendamment de Visual Studio, et on va vous fournir un certain nombre de profils. Voilà, donc des profils de devices qui vont simuler des tailles d'écran différentes, des tablettes, des téléphones, des API différentes au niveau d'Android, donc telle ou telle version d'Android. Bah, tout ça, vous allez les avoir directement et il suffit de télécharger un profil, voilà, comme on peut voir, directement ici pour récupérer une nouvelle version d'une tablette ou d'un téléphone Android. Après avoir vu les nouveautés de Visual Studio 2015 donc pour le développement mobile, nous allons parler de la partie évolution pour le développement pour et dans le cloud avec Azure. Donc on a introduit deux grosses nouveautés principales, en sachant que il y a un SDK Azure qui est installable avec Visual Studio, qui apporte des nouvelles fonctionnalités pour donner accès aux ressources Azure et à certaines fonctionnalités de Visual Studio sur ces ressources Azure directement dans Visual Studio. Donc une nouveauté qui est la partie cloud service. Donc on va vous permettre, grâce à cette possibilité donc de rajouter un service connecté, donc un service Azure, d'intégrer directement ce service dans votre application et donc de pouvoir l'utiliser encore plus facilement qu'auparavant directement en sélectionnant le service demandé. Donc par exemple Azure Mobile Services ou le stockage Azure. Aussi les API de Office 365 et enfin la partie Salesforce. On a aussi introduit en 2015, donc Visual Studio 2015, toute la partie, un outillage autour de HD Insight. Donc HD Insight est Hadoop as a Service et c'est la distribution de Hortonworks qui est utilisée pour ce Hadoop as a Service, donc HD Insight. Donc on va vous fournir un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de vous simplifier la vie pour créer, développer des choses dans votre cluster Hadoop. Donc par exemple, créer des tables Hive, être capable de créer et d'exécuter des requêtes Hive directement depuis Visual Studio. Vraiment, on a rajouté un ensemble de nouvelles fonctionnalités, donc via le SDK dans Visual Studio pour la partie Cloud Development. Passons maintenant aux nouveautés de Visual Studio 2015 pour la productivité des développeurs en, par exemple, passant sur tout ce qui est nouveauté sur l'IDE, comme le single sign-on sur les multiples services. Donc auparavant, quand on se connectait, par exemple, à Visual Studio Online, il fallait s'authentifier. Quand on se connectait à une souscription Azure pour visualiser ses ressources directement dans Visual Studio, il fallait s'authentifier. Bah, maintenant, avec une seule authentification, on va vous connecter aux différents services associés à votre compte. Donc ça, voilà, ça va vous simplifier la vie encore. Vous allez pouvoir customiser complètement le paramétrage de vos fenêtres, etc., la position. Vous allez pouvoir faire tout ça. On a mis, bon, pour ceux qui ont des très, très grands écrans, des icônes en haute résolution. Les menus sont revenus en minuscules par défaut. On supporte aussi toute la partie touch. Donc pour le scrolling, bah, voilà, vous bougez votre doigt. L'utilisation des deux doigts pour le zoom. Pour sélectionner une ligne complète, il suffit de taper dans la marge au niveau de la ligne. Et enfin, pour appeler le menu contextuel, appuie long avec le doigt. Voilà, directement. Ensuite, on a aussi introduit des nouveaux templates pour les shared projects. Donc les shared projects permettent donc de partager des ressources entre plusieurs autres projets dans une même solution. Donc tout ça est géré via des fichiers liés et qui apparaissent dans le Solution Explorer. Donc c'est supporté par l'ensemble des projets qui sont affichés ici. Ensuite, en termes de productivité, en termes d'édition de code, donc on a introduit grâce à Roselyne, donc qui publie un certain nombre d'API sur le compilateur et donc qui donne accès aux informations sur le code, c'est la partie refactoring avancée. Donc on va pouvoir vous proposer, comme vous voyez en haut à droite, directement une solution plus élégante, on va dire, et vous l'affichez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner, et automatiquement, ça va remplacer le code en question. On parle aussi de light bulbs, donc c'est toutes les petites ampoules que l'on voit apparaître. Donc ça, petite ampoule, signifie que qu'on va vous donner de l'information, vous proposer pas forcément une solution, mais une bonne pratique à ce moment-là, comme on le voit ici. Donc par exemple, vous voyez, j'ai console write ABC. Donc pour lui, il me dit, bah, est-ce que c'est un field? Est-ce que vous voulez que je génère un champ read-only, ou une propriété, ou une variable locale? Bah, tout ça, vous allez sélectionner ce qui vous intéresse, et surtout visualiser avant qu'il le fasse la ligne de code qu'il va, ou là, ou les lignes de code qu'il va rajouter. On le verra tout à l'heure en démonstration. On fait de l'analyse de pardon du code d'analyse de code en live. C'est-à-dire que c'est vraiment du temps réel. C'est-à-dire que dès que vous allez écrire du code, il va automatiquement vous afficher une erreur ou un warning pour vous signaler que ce que vous êtes en train d'écrire n'est pas correct vis-à-vis des bonnes pratiques de codage, donc qu'on fournit de base, mais aussi des pratiques que votre entreprise aura pu mettre en œuvre directement au niveau de Visual Studio. Sur la partie code map, donc code map, c'était la possibilité de visualiser graphiquement des relations entre des tâches ou des appels de méthodes quand on est en mode debug, des choses comme ça, directement dans Visual Studio. Donc on a rajouté un certain nombre de fonctionnalités comme le filtrage, faire du drag and drop depuis l'object browser ou le class view pour juste voir les relations qui existent entre certaines classes. Créer aussi un diagramme à partir de classes sélectionnées, alors qu'avant c'était sur l'ensemble directement. Voilà, créer un graphique vide et le remplir au fur et à mesure, voilà, pour simplifier, et aussi en termes de performance, des améliorations pour là encore vous donner l'information le plus rapidement possible. Sur la partie CodeLens, donc CodeLens, affichage tête haute, donc comme l'a si bien dit Brian Harry quand c'est sorti. Affichage tête haute des informations. Donc pour chaque classe, pour chaque méthode, vous voyez le nombre de références à cette classe ou à cette méthode, le nombre de modifications faites par des utilisateurs, le nombre en termes de code, nombre de changements en termes de code, voilà. Aussi le nombre de work items associés. Donc ça peut être des bugs, ça peut être des tâches, etc. Aussi, quand il y a des cas de test, donc unitaires, des tests unitaires liés à la classe ou à la méthode, vous voyez le résultat des tests en question s'ils ont été exécutés. Voilà, donc ça c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'aller lancer quelque chose ou ouvrir des fenêtres pour comprendre ce qui se passe. On a vraiment toutes les informations ici. Donc maintenant, sur CodeLens, donc pour la partie les modifications en termes de code, ça a été modifié, présenté sous une forme de timeline, donc une vue dans le temps. Et avant, c'était une liste, hein, tout simplement. Là, maintenant, on le voit dans le temps, on voit les modifications qu'il a fait, etc. Donc c'est plus visible. Chose importante avec Visual Studio 2015, CodeLens est maintenant disponible directement dans Visual Studio professionnel, alors qu'avant il n'était uniquement dans Ultimate. Ensuite, on a beaucoup travaillé aussi sur la partie diagnostic. Donc là encore, on a introduit une notion de timeline, donc qui vous permet de visualiser dans le temps ce qui se passe pendant la phase de debug ou pendant une session de diagnostic. On va pouvoir voir, on va pouvoir filtrer, afficher des informations comme la consommation mémoire, le CPU, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et ça fait partie de ce qu'on avait introduit en 2013, qui est le hub de performance et diagnostic. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi introduit pour tout ce qui est XAML, c'est le Live Visual Tree, donc qui va vous permettre en mode debug, directement de pouvoir sélectionner un élément graphique de votre interface et de la modifier en live pendant le mode debug. Donc ça peut être pratique quand on veut faire un peu de design en mode actif, voilà, comme ça je vais pouvoir le faire directement sans avoir à arrêter le mode debug, faire ma modification et revenir en mode debug. Donc ça, c'est aussi un gain de temps non négligeable. Me voici dans Visual Studio. Là, je vais vous montrer donc toute la partie lightbulbs et analyse de code en temps réel. Donc on voit ici une erreur et vous voyez, on voit directement la lightbulbs qui me propose d'implémenter l'interface. On visualise directement le code et j'ai plus qu'à sélectionner et automatiquement le code est rajouté. Vous voyez, c'est vraiment une aide précieuse pour les développeurs pour vraiment aller très très vite. Je parlais d'analyse de code en temps réel. Ce que je vais faire tout de suite, c'est rajouter un analyseur qu'on fournit, donc les équipes de développement Microsoft fournissent par défaut, donc voilà, qui s'appelle Microsoft Analyzer Power Pack, avec un certain nombre de bonnes pratiques sur, sur les différents langages. Donc là, bah, plus particulièrement ici, le C#. Hein, donc je vais l'installer. Et vous allez voir, une fois l'installation, si je reviens sur la partie error list, voilà, on voit des erreurs de type CA, donc code analysis, qui me disent attention, il faut rajouter voilà, c'est l'attribut serialized ou la classe, puisque ce type implémente une interface. Donc je vais revenir sur ma classe, et vous allez voir, vous voyez, j'ai la même chose ici, qui me dit serializable attribute. Et on visualise là encore l'attribut en question. Donc hop, voilà, c'est fait. J'ai encore une autre erreur. Toujours sur la même classe, donc soit dans l'erreur liste, soit directement sur la classe en question. Vous voyez, on voit, c'est souligné. Il n'y a pas d'erreur, mais c'est pas rouge, mais c'est, ça me dit quand même qu'il me manque quelque chose. Et là, donc, hop, pareil, implémente le constructeur. Voilà, je vois là encore le code en question qui va être ajouté et directement. Voilà, vous voyez, très simplement, donc grâce à ces fameux light bulbs, ces petites idées lumineuses, comme on pourrait dire, va me permettre de... ne plus trop me soucier si j'ai oublié telle ou telle chose, c'est que ça va m'apporter directement, donc grâce à Roselyne, les bonnes pratiques et me carrément quasiment coder pour moi, ou mettre au moins la partie squelette directement dans mon code. Nous allons maintenant voir la partie Live Visual Tree qui va nous permettre de modifier directement l'apparence des contrôles d'un client que je suis en train de débugger en live. Voilà, sans avoir à arrêter le mode debug et redémarrer le mode, faire mes modifications et redémarrer le mode debug. Là, vous voyez, je suis en mode debug dans Visual Studio. Je vais réduire Visual Studio pour visualiser mon application. Je sélectionne ici la possibilité d'aller choisir un contrôle. Voilà. Donc là, ici, je vais cliquer sur cet élément-là. Hop. Voilà, je reviens ici, il m'a automatiquement montré dans l'arbre des contrôles. J'ai ici la fenêtre de propriété et par exemple, si je change la taille, mais directement, donc on va faire une taille. On voit, voilà, la modification qui est apparue directement. Donc ça, c'est très pratique. Je vais pouvoir peaufiner mon design ou au moins la présentation en mode debug sans avoir à arrêter, modifier, puis redémarrer ce mode debug. Donc on va se concentrer maintenant sur la partie Blend, donc qui est l'outil de design fourni avec Visual Studio. Donc quelques nouveautés pour Visual Studio 2015. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? Donc, tout ce qui est IntelliSense pour le XAML. Donc, on va pouvoir maintenant, on l'avait déjà fait au niveau de Visual Studio pour le binding, pour récupérer des données ou l'IntelliSense classique sur du XAML. Là, maintenant, on l'a intégré aussi dans Blend. On va pouvoir faire un peu de debug au niveau de Blend aussi, donc un peu de debug, hein, longtemps, plus besoin de l'ouvrir dans Visual Studio, on va pouvoir poser des points d'arrêt sur l'application directement depuis Blend. Donc ça, c'est un petit truc sympa en plus, ça évite d'aller ouvrir Visual Studio, on va pouvoir le faire dans mon outil de design habituel, donc Blend. On a aussi, donc ça, on l'avait introduit au niveau de Visual Studio 2013 qui était le pic définition pour tout ce qui était code source, donc qui permettait plutôt que d'ouvrir le fichier contenant la définition de ce qu'on recherche, c'est de l'afficher directement dans le fichier directement. Donc bah ça, maintenant on le fait aussi pour la partie XAML. On va s'attarder sur les nouveautés en termes de debug et de diagnostic que l'on a introduites dans Visual Studio 2015. Donc vraiment, nouvelle expérience de debug, on va avoir ce que l'on appelle le perf tips. Ce que l'on voit en haut à droite, c'est ici directement le temps passé entre plusieurs instructions. Et en cliquant dessus, on va automatiquement arriver sur les outils de diagnostic uniquement filtrés sur cet intervalle. Donc ça va permettre de voir un peu où on a perdu du temps, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. etc. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi, pour créer des points d'arrêt basés sur des conditions, etc., on a fait directement une petite fenêtre qui apparaît quand vous créez un point d'arrêt, vous pouvez directement sélectionner les conditions de déclenchement de ce point d'arrêt. On a aussi, on peut mettre des points d'arrêt maintenant sur les propriétés auto-implémentées. Donc ça, c'est pratique, voilà, ça nous permet de faire ça. Et grosse demande de votre part, c'est enfin le support des expressions lambda dans le débugger Windows. Donc ça, voilà, je pense que ça va ravir certains dans leur usage de tous les jours de Visual Studio. IntelliTrace, donc IntelliTrace, l'outil de debug historique présent dans Visual Studio Enterprise, donc est maintenant directement intégré dans la fenêtre de diagnostic, donc des outils de diagnostic. Là encore, c'était une fenêtre à part, il fallait l'activer. Là maintenant, ça y est, vous l'avez directement dans les outils de diagnostic, c'est plus simple. Et cette fenêtre d'outils de diagnostic contient, comme on a pu voir tout à l'heure dans la démo, toute la partie mémoire, utilisation du CPU, etc., etc. On a aussi rajouté des fenêtres complémentaires pour afficher tout ce qui est détails sur les événements en mode debug, donc tout ce qu'on a collecté comme information, et aussi la visualisation toujours dans le temps, donc via une timeline, de l'exécution de l'application. Voilà, pour encore essayer de vous aider un peu plus dans la partie debug. Me voici de retour dans Visual Studio, où je vais vous montrer directement les nouveautés dont je vous ai parlé auparavant. La toute première, le pic définition. Je suis donc sur un objet dans un fichier XAML, et je vais pouvoir, soit via clic droit, soit via le raccourci Alt F12, pouvoir faire un pic définition, donc qui va me permettre de visualiser la définition donc, de cet objet directement dans le même fichier dans lequel je travaille. Donc ça, en termes d'efficacité, ça va me simplifier la vie. Aussi, je vais pouvoir éditer cette définition directement depuis le même fichier. Donc c'est très pratique à utiliser tous les jours. Voilà, donc on va lancer une session de debug sur cette application. Elle va se lancer. J'ai mis un point d'arrêt pour vous montrer deux, trois petites choses. Donc, toute la partie outils diagnostiques, la partie perftip et enfin le debug des expressions lambda. Donc, on va laisser notre application démarrer. On arrive sur le point d'arrêt. Je vais continuer l'application. Voilà. Et on va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer la partie perftip. Vous voyez ici, j'ai une information sur le temps passé entre les deux instructions. Donc entre les deux, là par exemple, les deux points d'arrêt, en cliquant dessus, ça va automatiquement m'ouvrir les outils de diagnostic avec un filtre sur qu'est-ce qui s'est passé entre les deux instructions en question. D'accord ? Donc là, je vais pouvoir comprendre ce qui se passe, faire très facilement un snapshot de mémoire. Vous voyez, hop, je clique sur le bouton et ça se fait automatiquement. Voilà. Donc vous voyez, on va pouvoir essayer de comprendre à partir de là où est-ce qu'on a perdu du temps, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc si je reset la vue, donc c'est-à-dire que je vais voir la vue globale de tout ce qui s'est passé depuis le début de ma session dans l'outil de diagnostic. Je vais pouvoir revenir par exemple ici sur mon point d'arrêt précédent et ouvrir via le debug historique directement mon code avec les variables locales, l'ensemble des variables au moment où j'ai eu le premier point d'arrêt et essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé directement. Voilà, donc c'est vraiment super pratique. Et en plus, Visual Studio me propose très simplement de revenir en mode live du debug. C'est-à-dire je vais revenir à mon dernier point d'arrêt. Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Voilà, vous voyez, je reviens où je m'étais arrêté. Je vous parlais du debug des expressions lambda. Bah voilà, on le voit ici, vous voyez, un certain nombre de choses, d'informations. Je les dis directement ici, ou sinon, si je sélectionne ça, hop, copie, paste, entrée, et je vais voir les valeurs directement de cette expression lambda dans ma fenêtre. Je vais pouvoir aussi modifier, donc je vais modifier directement l'entrée, hop, voilà. Je rajoute ici, voilà, je n'ai pas pris le select, impeccable, et je vais relancer mon application, voilà. Hop, on continue, et je reviens ici. Voilà. Sera. Voilà, on retrouve nos voitures donc ont été filtrées par rapport à l'expression lambda qui a été donc exécutée ici et que j'ai modifiée directement pendant ma session de debug. Voyons maintenant les nouveautés apportées par Visual Studio 2015 sur la partie test. Donc, tout d'abord, première chose, IntelliTest. Donc, IntelliTest, pour ceux qui ont déjà utilisé Visual Studio 2015 Release Candidate, ça s'appelait Smart Unit Testing. Voilà, on a juste renommé le nom de la fonctionnalité avec IntelliTest. Donc, IntelliTest va vous permettre de générer les tests unitaires de votre application pour maximiser la couverture de code de ces tests. Voilà. Donc il va non seulement générer les tests unitaires, mais aussi les jeux de données associés pour aller aux limites des différentes conditions, etc. Donc ça c'est important. Chose importante, vous modifiez votre code, les tests unitaires sont évidemment en synchronisation, remis à jour par rapport au nouveau code écrit ou au code modifié. Donc ça, ce IntelliTest vient d'un projet de Microsoft Research qui s'appelait PEX. Voilà. On a aussi amélioré toute la partie sur CodeLens pour naviguer plus facilement qu'auparavant. Et enfin, sur la partie test de charge, on a simplifié le fait de pouvoir faire des tests de charge soit localement, soit directement dans le cloud. On a simplifié toute cette partie-là. Voilà, pour là encore vous aider. Après avoir vu donc toutes les nouveautés sur Visual Studio 2015, nous allons maintenant nous concentrer sur Team Foundation Server 2015, donc qui est la plateforme de gestion du cycle de vie des applications de Microsoft. Donc deux grosses nouveautés donc sur la partie Agile Project Management, mais aussi sur le build VNext et le Continuous Delivery. Ça, je vous montrerai directement en mode démo. Sur la partie More Improvement, on va en parler tout de suite. Tout d'abord, c'est la possibilité de faire de l'édition de code dans Web Access. Donc Web Access, qui est l'accès web de TFS, vous allez pouvoir maintenant modifier, éditer du code directement dans Web Access. Vous allez aussi pouvoir rajouter créer des nouveaux fichiers ou uploader des fichiers existants sur votre machine directement via le mode web. Donc ça va pouvoir simplifier la vie de certaines populations donc qui vont juste mettre à jour des fichiers HTML ou mettre à disposition du projet des documents autres que du code. Ça va leur permettre, sans avoir à installer quelque chose sur leur machine, de pouvoir mettre en configuration ces sources-là. Alors, grosse modification, mais qui était peut-être anodine pour vous, mais même si elle était numéro 1 dans la liste des demandes au niveau de TFS, c'est la possibilité de renommer un projet d'équipe dans TFS. Donc ça y est, c'est fait. On a aussi rajouté des branch policy donc sur tout ce qui était Git, l'équivalent des gated check-in quand on travaillait avec le gestionnaire de code source natif. Donc là maintenant voilà, vous avez la notion de branch policy sur du Git. Alors on va pouvoir spécifier à partir de par exemple un pull request a été mis à jour, pouvoir exécuter automatiquement un build, mettre un minimum de reviewer pour de relecteur pour les code review, etc., etc. Voilà. On va même pouvoir spécifier quel est le pass. Donc si on a modifié uniquement une partie de l'arborescence, c'est cette partie-là où on doit forcément avoir un pull request associé. Voilà. Donc ça, c'était demandé. On l'a aussi ajouté. Et enfin, on a maintenant un support de Safe, donc qui est le Scaled Agile Framework, la possibilité de créer des EPIC, donc qui est un work item spécifique, directement dans TFS. Voilà. Donc là maintenant on va passer à la partie démo, donc sur Agile Project Management et aussi sur la partie Build VNext et Continuous Delivery. Donc me voici dans la partie Web Access de TFS. Donc ici, plus spécifiquement sur le Kanban, sur le diagramme Kanban, de la gestion du backlog. Donc là, première nouveauté, le backlog est directement visible sur la gauche. On a possibilité, si l'on souhaite avoir un peu plus de place, cacher cette colonne directement, vous voyez, juste. Chose aussi importante, on a un mode plein écran de ce Kanban. Il suffit de cliquer sur le bouton et hop, automatiquement, toutes les menus, etc. autour disparaissent. Donc ça peut être pratique aussi pour profiter d'un écran complet. Donc on peut créer aussi directement des nouveaux éléments pour le backlog. Donc là, je clique dessus. Vous voyez qu'apparaissent Product Backlog Item et Bug. Donc, autre nouveauté aussi, c'est que maintenant, vous avez la possibilité de dire si vous voulez ou pas afficher les bugs dans le backlog. Vous faire un backlog spécifique pour les bugs. Voilà, donc ça, c'est aussi une nouveauté de TFS 2015. Donc, je vais faire un nouveau Product Backlog ATM que l'on va appeler les nouveautés 2015. Voilà. On a aussi ajouté la notion de doing et done. Donc c'est vraiment dire je suis en train de faire et j'ai fait. Auparavant, on n'avait qu'une seule colonne, donc approved ou committed. Quand j'avais terminé la partie approved, je basculais directement dans committed. Sauf que les personnes côté committed qui devaient faire des traitements côté committed n'avaient pas forcément la bande passante pour le faire. Donc là maintenant, on va pouvoir dire dans la colonne approve, j'ai terminé, et les personnes travaillant sur la partie committed pourront prendre l'élément en question et le basculer en mode doing quand ils travailleront effectivement dessus. Donc ça c'est intéressant. Alors après, comment dire, j'ai terminé quelque chose, donc passer de doing à done, et on a la définition, donc on a aussi rajouté ça, c'est la définition of done pour les états. Donc ça, c'est vraiment du texte que vous allez personnaliser par rapport à votre workflow, votre définition of done de chaque état. Donc là, par exemple, pour l'état approuvé, pour dire que j'ai terminé l'approbation, il faut une validation de l'équipe d'architecture et de l'équipe de développement, par exemple. Voilà. On a aussi la notion de swim lane, donc qui permet de définir des workflows plus ou moins rapides ou représenter des équipes sur ce Kanban. Donc là, on voit un Expedite, par exemple, qui me permet de, par exemple, pour ce bug de connexion, peut-être un bug de production, pouvoir aller un petit peu plus vite que le workflow classique. Voilà. Donc ça peut être intéressant à utiliser. Ou sinon, comme je disais, représenter des équipes. Donc là, vous voyez, j'ai la partie développement et la partie opérationnelle. Donc qui va permettre de visualiser en parallèle le travail de chacune des équipes. On a aussi rajouté la possibilité de customiser ce qu'on affiche comme champ sur chaque élément. Donc là, par exemple, à qui on a assigné, la priorité, les forts, les tags. Voilà, on va pouvoir vraiment tout customiser par rapport à son besoin. Et tout cela se fait tout simplement par la partie paramètres, donc les champs affichés, les styles si on souhaite, voilà, des couleurs sur les tags, définition des colonnes, donc par exemple approved avec la définition of done ici, voilà, on a vraiment toutes les informations. Swim lane, pareil, expedite, development, operation. Vous voyez, on va pouvoir définir vraiment comment on veut travailler. Et aussi, je vous parlais des bugs. On va pouvoir dire, est-ce que vous voulez que les bugs apparaissent pardon, dans le backlog, ou n'apparaissent pas dans le backlog, ou avec les tâches, ou n'apparaissent pas du tout. Vous voyez, on va pouvoir vraiment tout spécifier vraiment par rapport à votre besoin. Nous voici dans Web Access de TFS, et nous allons maintenant aborder toutes les nouveautés sur la partie build, donc qu'on a appelé Build vNext, et le Continuous Deployment. Donc Build vNext est la nouvelle façon de créer des définitions de build comme on le faisait auparavant donc dans Visual Studio en XAML. Donc maintenant tout va se faire via Web Access et sans XAML directement. Donc on peut voir ici une définition avec un build de type Visual Studio, donc on va builder la solution, ensuite exécuter les tests, ensuite on va faire un déploiement directement dans le service Azure Web App d'Azure, indexer les sources et publier les symboles, et ensuite publier les artefacts. Donc on va pouvoir sélectionner un ensemble d'étapes que l'on va pouvoir bien sûr paramétrer en fonction de ce que l'on souhaite faire, et nous proposons une librairie d'étapes prédéfinies. Toutes ces librairies sont mises sur GitHub en code source pour vous aider à customiser et à ajouter vos propres tâches dans ce workflow de build. Donc tout d'abord, les activités de build, on peut voir qu'on peut faire des builds Android directement. Signer le fichier APK, on peut aussi builder avec du ANT, utiliser CMake, du Gradle, du Grunt, du Gulp, indexer les sources, faire aussi du build avec du Maven, publier les artefacts, on a vu. Aussi lancer des analyses de code via SonarQube. Donc ça arrivera dans TFS dans un update un petit peu plus tard. On retrouve notre Visual Studio Build, Xamarin Android et Xamarin iOS, et aussi des builds directement Xcode. On a aussi des petits utilitaires qui vont vous permettre de faire de la commande en ligne, exécuter des scripts batch, curl, PowerShell, du shell aussi. Sur la partie test, on va pouvoir automatiquement lancer, on l'a vu auparavant, par exemple, les tests unitaires, mais aussi des tests de performance web, des tests de charge basés donc dans le cloud, publier des résultats de tests, déployer l'agent de test pour pouvoir exécuter des tests de non-régression que l'on aura automatisés via Visual Studio, et aussi lancer des tests en mode cloud pour les applications mobiles de Xamarin. Aussi toute la partie packaging avec Cocoa donc pour Objective-C, NPN et Nuget. Et enfin, sur la partie déploiement, on va pouvoir directement ajouter des étapes de déploiement, par exemple dans un cloud service Azure, de faire du copy du stockage Azure vers la VM ou vers un autre élément, dans la VM, la machine virtuelle, exécuter du PowerShell, pouvoir déployer des ressources groupes dans Azure directement depuis le processus de build. Donc là, on va parler dans ces cas-là de continuous delivery. Déployer aussi directement dans les services Azure SQL Database directement aussi, là encore, dans build. Comme on l'a vu tout à l'heure, déployer dans une Azure Web App. Utiliser Chef ou Chef Knife pour automatiser des choses que l'on aurait déjà fait auparavant dans Chef. Déployer des containers Docker directement, faire des actions sur des machines, et encore du PowerShell, des copies de fichiers, etc. Et bien sûr, tout cela est extensible avec vos propres actions que vous pourrez rajouter dans cette liste-là. Donc on a aussi, on a vu le workflow. Bien sûr, on fournit un certain nombre de modèles par défaut de processus de build. Donc là, si je crée une nouvelle build, vous voyez, je vais avoir Visual Studio, Xamarin Android, Xamarin iOS et enfin Xcode. On peut bien sûr créer sa propre définition vide. On a aussi l'équivalent si on veut déployer dans des services cloud, des services website, web apps, et enfin builder, déployer et distribuer les tests sur plusieurs machines. Voilà. Donc ça c'est pré-câblé, mais bien sûr vous pouvez créer vos propres définitions de build à partir de ces modèles ou à partir de rien du tout. Ensuite, en termes d'options, enfin de paramétrage, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Donc, si on va dans la partie options, on va pouvoir définir donc les multi-configurations, par exemple, comme on le faisait auparavant en mode, j'allais dire XAML. On peut choisir aussi le repository à partir duquel on va builder. Donc là, mon repository, je prends directement celui qui est hébergé dans TFS, donc là, qui est en utilisant Git. On peut directement aller builder une solution ou un projet directement depuis GitHub, et enfin le faire aussi depuis un Git externe, donc un référentiel local par exemple, on pourrait le faire. On peut définir bien sûr des variables, un certain nombre de variables, donc ça qui seront réutilisées comme auparavant. La notion de trigger, là encore, idem que pour les builds XAML, c'est l'intégration continue ou au contraire sur une heure ou un jour précis, on va pouvoir le déclencher. Ensuite, la partie générale, bien sûr, les règles de nommage, voilà, bon, classique. La partie rétention, là encore, classique comme on faisait avant. Et aussi, grosse nouveauté, c'est la partie historique sur la build en question. Donc on va pouvoir savoir qui a fait quoi, quelles modifications directement. On va pouvoir revenir en arrière si nécessaire. Donc là, je vais pouvoir faire un diff, par exemple, avec la version de la définition précédente, directement depuis le mode web. Voilà, donc là, j'ai rajouté un trigger sur une branche directement. C'est-à-dire que je vais déclencher le build que si les sources qui sont modifiées sont sur la branche master, par exemple, comme on le voit ici. Voilà, et c'est ici directement. Voilà, donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté sur toute la partie continuous delivery et build vNext, donc qui va devenir le nouveau build maintenant. Donc, grande nouveauté, possibilité de maintenant créer ces builds directement depuis le web access de TFS sans passer par Visual Studio, et aussi donc une fourniture d'un ensemble d'actions possibles pour créer un workflow et qui va permettre d'aller jusqu'au déploiement de l'application, soit dans des VM, soit dans des services Azure, soit même directement dans des machines que vous hébergez chez vous. Autre nouveauté aussi sur cette partie donc build vNext, c'est la possibilité de, pendant l'exécution du build
sur l'agent de vie, c'est de suivre en temps réel les différentes actions qu'il est en train de faire sur l'agent. Donc là, voilà, on attend la connexion depuis l'agent et on va pouvoir voilà, directement visualiser en temps réel ce qui se passe. Donc là, il est en train de builder notre solution. Il est en train de... il a donc fait créer le zip ici. Il est en train maintenant d'exécuter, comme on le voit en bas, Start Test Exécution, donc la deuxième étape de notre workflow. Donc on va le laisser faire. Et là maintenant, il est en train de lancer la tâche qui est Azure Deployment. Donc il va déployer ce qu'il vient de vider directement dans un site web hébergé dans Azure, donc via Azure Web App. Donc on va le laisser faire ça. Ensuite, il va publier tout ce qui est symbole. Publier tout ce qui a été buildé dans un répertoire drop pour après qu'on puisse le récupérer ou si on fait un déploiement via du release management par exemple, récupérer ce qui a été buildé dans le build et ensuite pouvoir le déployer sur une machine ou autre. Voilà, donc il a fini voilà, de déployer. Là maintenant, il est en train de donc, publier les symboles, c'est fait, voilà, ça a été vite. Et ensuite, il va maintenant. Publier les artefacts dans le répertoire drop. Vous voyez, donc c'est vraiment en temps réel, on voit ce qui se passe, on n'a pas un petit délai comme on pouvait avoir auparavant sur l'ancienne version, on le voit directement ici. Ensuite, une fois qu'il aura terminé, il va me montrer un résumé, donc il va voir combien de temps il a passé, ce qui est associé avec la build en question. Si des tests ont été exécutés, ce qui est le cas ici, je verrai j'aurai un lien pour aller visualiser les tests directement sans avoir à aller ouvrir. Voilà, ça y est, mon build vient de se terminer. On va donc attendre un petit peu qu'il nous affiche le résumé directement. Voilà, donc voilà, vraiment maintenant on va pouvoir faire des builds directement depuis le web. On pouvait le faire avant, mais on va surtout pouvoir visualiser son avancée directement donc en mode web, toujours en mode web. Voilà, bon, sinon je vais aller directement sur la page. Donc on retrouve ici différents liens et on retrouve notre exécution des tests. Donc voilà, je vais avoir le résumé des tests avec des graphiques pour présenter. J'ai toujours le fichier TRX qui me permet de regarder tout ça directement dans Visual Studio. J'ai vraiment tout. Je peux aller voir les résultats aussi. Voilà, et créer un bug à partir de là. Voilà, donc là on a vu l'ensemble de tout ce qui était nouveauté sur la partie build VNext. Pour finir cette présentation sur les nouveautés de Visual Studio et TFS 2015, je vous propose quelques ressources. Tout d'abord, deux liens vers les release notes de chaque outil, un lien pour les télécharger, et enfin un lien pour récupérer l'ensemble des vidéos faites durant l'événement d'annonce de Visual Studio 2015 sur Channel 9. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.